France Info.
Bonjour Frédéric Valtou.
Bonjour.
On va évidemment parler avec vous des annonces faites par le Premier ministre ce week-end sur la politique de santé. Mais avant, avez-vous des nouvelles du brancardier violemment agressé avant-hier aux urgences de Challans en Vendée ?
Oui, j'ai quelques nouvelles. D'abord que son état s'est amélioré, légèrement amélioré, mais en tout cas il y a du mieux, première chose.
Il est en soins intensifs.
Il est en soins intensifs, bien sûr. Il a été sévèrement attaqué. Je pense à lui, sa famille, et je voudrais vraiment dire la lâcheté de cette violence qui s'est déchaînée, la lâcheté de cet acte, parce que c'est une situation où les urgences n'étaient pas du tout en état de tension. On est sur une pure affaire de délinquance. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que le système de vidéosurveillance a permis aux enquêteurs d'ores et déjà d'identifier les fautifs de cette affaire, qui, de ce que je sais, mes informations datent d'hier soir, n'étaient pas arrêtées. Mais néanmoins, en tout cas, ils ont été identifiés grâce au déploiement de la vidéosurveillance. La vidéosurveillance qui se déploie, c'est un fait de plus en plus vrai dans les hôpitaux, et notamment dans les services d'urgence. Ça faisait partie d'ailleurs d'un des éléments du plan de sécurisation des hôpitaux et notamment des services d'urgence qui avait été présenté il y a quelques mois. Et donc on voit que ça a un effet, mais néanmoins, il n'empêche pas que ce déchaînement de violence dans un établissement comme un hôpital, où les gens sont là pour soigner, pas pour se protéger, là je parle des soignants, sont là pour prendre en charge les plus faibles, bien sûr, c'est inacceptable.
Plus de caméras surveillance parce que les faits de violence se multiplient dans les enceintes même des hôpitaux.
La société est comme ça. Pendant longtemps, on a sans doute beaucoup plus respecté l'hôpital et les hospitaliers. Aujourd'hui, la violence est invitée aussi dans les services hospitaliers, les urgences, mais pas simplement. Et donc, il faut prendre ça en compte. C'est pas non plus un phénomène nouveau. Il faut prendre ça en compte. Et souvent, les caméras sont aux abords des établissements, pas forcément dans les services, mais en tout cas, permettent de surveiller les allées et venues dans les services hospitaliers.
Frédéric Valtou, c'est l'une des annonces faites par Gabriel Attal ce week-end. Il va falloir payer 5 euros pour un rendez-vous médical non honoré à partir du 1er janvier 2025. Très concrètement, comment vous allez faire ?
Eh ben, on va faire que simplement les patients, lorsqu'ils vont prendre rendez-vous, vont laisser leurs coordonnées de carte, par exemple, notamment lorsqu'ils le font par des plateformes.
Une empreinte bancaire à chaque réservation de rendez-vous.
Oui, mais aujourd'hui, la moitié des rendez-vous sont pris via des plateformes bancaires, donc on voit des plateformes, pardon, de réservation, Doctolib et tant d'autres. Et donc, en agissant avec eux, c'est des propositions d'ailleurs qui viennent de cette profession. C'est techniquement tout à fait faisable. L'objectif, c'est quoi ? D'aller chercher toujours plus de revenus. C'est juste qu'on respecte les rendez-vous médicaux. Aujourd'hui, on est en état de tension. Il y a des Français qui n'ont pas accès ou plus difficilement à des rendez-vous chez les médecins. Les médecins se plaignent que parfois c'est 2-3 comme ça lapins qu'on leur pose par jour. Eh bien, c'est évidemment que mis bout à bout, c'est des millions de rendez-vous qui chaque année sont perdus. Et perdus pour qui ? Pour les patients, pas simplement pour la rémunération des médecins. Et donc, il faut arriver à responsabiliser les patients. On peut très bien annuler un rendez-vous chez médecin, et on peut même l'annuler jusqu'à la veille, mais ne pas honorer un rendez-vous qu'on a pris, eh bien, c'est prendre la place, en l'occurrence, c'est bloquer l'accès à quelqu'un d'autre qui en aurait eu besoin.
Mais quand même, Frédéric Valtou, il y a des questions techniques sur l'annonce de 5 euros.
Bien sûr qu'il y a des questions
techniques. On ne comprend pas trop comment vous allez faire. Vous l'avez dit, si on passe par Doctolib, imaginons que je prenne un rendez-vous pour un proche sur Doctolib. Si le proche en question ne se rend pas à ce rendez-vous, c'est moi qui vais être débité des 5 euros ?
La personne qui prendra rendez-vous laissera les coordonnées bancaires, de la personne qui prendra, pour qui le rendez-vous est pris.
Et pourquoi ne pas faire payer les plateformes ?
Mais parce que les plateformes sont pas responsables de savoir si les gens qui prennent 3-4 rendez-vous, puis qui tout d'un coup, deux jours avant, trouvent un rendez-vous, un créneau qui s'est libéré plus près de chez eux, reprennent un rendez-vous pour le lendemain et abandonnent sans les annuler les 3-4 rendez-vous qu'ils ont déjà pris. Je veux dire, ça n'est pas acceptable. Et donc, les plateformes ont facilité l'accès aux soins, et tant mieux. Mais néanmoins, ça doit pas être, il doit y avoir un réflexe de responsabilité, je le redis.
Mais si je prends rendez-vous par téléphone, par exemple, là aussi, je vais devoir laisser mes coordonnées bancaires
à la secrétaire du médecin. Ça sera la libre possibilité des médecins. Les médecins qui le souhaitent, et ils sont nombreux à se plaindre de ce phénomène, auront la possibilité, effectivement, de demander les coordonnées bancaires aux patients qui téléphonent pour des rendez-vous et les secrétaires de les enregistrer.
Et ça va ne font pas la relation entre les médecins et leurs patients.
Pourquoi tendre la relation ? Quand vous réservez, dans des restaurants, dans des hôtels, pour énormément de services aujourd'hui, ça ne tend pas la relation avec l'hôtelier, le restaurateur. facteur parce que on vous a demandé une empreinte bancaire. Enfin, il y a un phénomène de responsabilisation. Mmh. Alors maintenant, ne me posez pas trop de questions précises puisque le principe est posé, le calendrier est posé et le Premier ministre a eu raison de rappeler tout ça. Maintenant, nous allons y travailler avec les syndicats de médecins, avec les plateformes, avec les associations de patients.
On entend
aussi.
L'intention.
C'est très important.
Sauf que vous le savez aussi,
avec
monsieur le ministre, il y a beaucoup de patients qui détiennent la CMU et donc ils ne payent pas leur consultation.
Mais justement, il faut regarder évidemment que cette règle, il y aura des exceptions comme à toute règle, et donc on va dessiner tous ensemble les contours d'application de cette règle, qui ça concerne, quel type de patient, dans quel type de relation. On va faire en sorte que les choses se passent bien. Vous comprenez que le fond, je le redis, c'est qu'on libère du temps médical et surtout que les gens respectent des rendez-vous médicaux. On sait que les plateformes ont facilité le fait de prendre des rendez-vous comme ça, d'en réserver plusieurs, et puis d'aller à celui qui vous paraît finalement le plus opportun.
Et donc ce sera au médecin de dire si la raison invoquée est valable ou pas.
Ce sera au médecin de dire s'il souhaite ou pas, et s'il percevoir ces 5 euros qu'il aura la possibilité de le faire.
Frédéric Valtoux, autre sujet, pour que chaque Français ait toujours un médecin de garde à moins de 30 minutes de chez lui, vous souhaitez augmenter le nombre de médecins de garde les soirs et les week-ends. Comment vous allez vous y prendre? Comment vous allez les inciter?
On va s'y prendre par la discussion. Et tous les sujets qui ont été posés par le Premier ministre vont avancer grâce à la discussion.
Pour l'instant, la discussion, elle est un peu en...
La discussion, les annonces étaient il y a 24 heures.
Oui, donc, mais les syndicats...
Hier, on était dimanche.
Jeudi dernier, on dit qu'ils n'étaient pas prêts à discuter.
Voilà. Non, mais jeudi dernier, c'est vous parlez des syndicats, des
libéraux,
spécialistes libéraux, qui, sur un autre sujet, et on pourra en parler sur la campagne tarifaire, regrettent de ne pas avoir un accompagnement financier plus soutenu. Mais ça, je pourrais y revenir parce que j'ai des choses à leur dire.
On va y revenir.
Mais, néanmoins, sur la question de l'accès aux soins et effectivement de la garde du soir, il faut qu'on progresse il faut qu'on progresse sur ce sujet. Il faut qu'on progresse par la concertation, je l'ai dit. Il faut qu'on le progresse en travaillant bassin de vie par bassin de vie, parce que c'est au plus près du terrain qu'on peut travailler à améliorer la situation. Et effectivement, il faut qu'on améliore l'engagement des professionnels. Aujourd'hui, il y a 40% de médecins généralistes qui participent à la permanence de soins. Donc, on ne repart pas de zéro. Il y a déjà une masse très importante de médecins, un nombre très important, pardon, de médecins qui participent, qui prennent en charge.
Il y aura donc une incitation financière pour qu'ils multiplient les gardes.
Il y a une incitation financière. Toute heure travaillée, une heure payée. Une heure travaillée le soir et le week-end est une heure qui est à payer en conséquence du moment où elle se réalise, c'est-à-dire à des moments où effectivement, comme on le dit, en dehors des heures ouvrables. Voilà, donc à des moments où effectivement il y a une pénibilité. Donc bien sûr que c'est financé, c'est reconnu. On a augmenté les heures travaillées à l'hôpital pour les heures de nuit et les heures de week-end. Il y a évidemment que ce sont des heures qui sont mieux payées.
Néanmoins, 40% aujourd'hui de médecins.
40%, on verra.
L'objectif, c'est quoi?
L'objectif, c'est d'éviter d'obliger des gens à faire à rentrer dans des systèmes. Mais par contre, l'objectif, c'est par l'incitation, par la discussion, par la négociation, qu'on puisse améliorer effectivement l'engagement de tous pour la permanence des soins.
Chiffrer le nombre de médecins qui seraient mobilisés.
Je ne sais pas le chiffrer. Ça va dépendre. On va regarder la situation territoire par territoire. Là encore, je le redis. Mais l'objectif, c'est qu'aucun Français ne vive sur un territoire où il n'y a pas de permanence des soins qui soient garantis et donc est assuré à nous maintenant d'y travailler. Et si, je le redis quand même malgré tout, je ne vous donne pas l'impression de noyer le poisson, et si vraiment effectivement il faut aller vers des solutions plus contraintes, nous n'hésiterons pas à y aller.
Mais attendez, ça veut dire quoi du coup ça?
Ça veut dire que là où effectivement on constatera que dans un territoire, si par hasard, par malheur, il n'y avait pas d'engagement du tout des médecins pour porter et participer à la permanence des soins, et bien l'État, via les agences régionales de santé, via les réquisitions, ont tout à fait la possibilité de mettre en œuvre des systèmes. Mais c'est le stade ultime, c'est le stade dernier, c'est en cas d'échec,
une obligation de
discussion,
de garde
nous n'hésiterons pas à poser l'obligation de garde là où c'est nécessaire et là où effectivement il y aurait une absence de prise en charge par le collectif.
Vous avez parlé tout à l'heure des tarifs, on va en parler juste après le fil info. Frédéric Valtoux, il est 8h42, Diane Ferchit.
La maire d'Avallon dans l'Yonne a entendu ainsi que deux de ses frères et quatre autres personnes après la découverte de 70 kilos de résine de cannabis, 1 kilo de cocaïne, un lingot d'or et 7000 euros en liquide à son domicile. Elle est en garde à vue. On ignore si l'élu avait connaissance de la présence de cette marchandise. 4 jeunes, 3 mineurs et un majeur de 20 ans mis en examen pour assassinat. Ils sont en détention dans l'affaire de la mort de Semsedine, cette adolescente de 15 ans rouée de coups à la sortie de son collège de Viry-Châtillon en Essonne la semaine dernière. En cause, semble-t-il, des échanges entre la victime et la sœur de deux des suspects, la jeune fille et elle, mise en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime. Un incendie dans le 11e arrondissement de Paris, cette nuit, fait 3 morts. Un feu d'appartement au 7e étage d'un immeuble, une enquête est ouverte pour destruction par incendie et homicides involontaires. Dans la bande de Gaza, la ville de Rafah se préparait une possible offensive militaire israélienne. Après les déclarations du ministre israélien de la Défense, plus d'un million et demi de Palestiniens y sont réfugiés.
France Info.
Le 8-30 France Info. Jérôme Chapuis, Salia Brakia.
Toujours avec Frédéric Valletoux, ministre délégué à la Santé et à la Prévention. Est-ce que vous entendez certains syndicats qui sont en colère parce que Gabriel Attal, le Premier ministre, a annoncé ce week-end qu'il sera possible d'avoir accès directement à des psychologues à 50 euros la consultation remboursée, alors que ça fait des mois qu'ils négocient, qu'ils cherchent à vous convaincre pour que les consultations passent à 30 euros pour les généralistes. Vous entendez cette colère-là ?
Alors, vous faites référence à un dispositif qui s'appelle Mon Soutien Psy, qui va être revu et qui doit permettre effectivement de faciliter l'accès des Français à des consultations en santé mentale et de mieux prendre en charge la population, parce qu'on sait malheureusement que depuis le Covid, il y a un besoin qui est plus fort. L'accès direct au psychologue à travers Mon Parc Psy, il va être mis en place dans les prochaines semaines et il va effectivement permettre aussi par l'élargissement du nombre de séances qui vont être financées par ce dispositif. On passerait de 8 séances à 12 séances pour mieux prendre en charge les Français.
Et mieux rembourser, voilà. Passant de 30 à 50.
De toute façon, l'accès direct est une question qui doit être posée sans tabou. Aujourd'hui, on sait que la principale tension dans notre système de santé, c'est une question des effectifs de soignants. Et donc, il faut, pour faciliter à la fois l'accès des Français aux soins, puisque c'est le premier, je ne veux pas dire le seul engagement qu'on poursuit, mais c'est l'engagement principal que l'on poursuit, améliorer l'accès aux soins des Français. Mais en le faisant avec les professionnels et donc en travaillant avec eux pour permettre là où c'est possible. Ça a été, et ça va être fait, le Premier ministre l'a dit, pour les kinés, c'est déjà fait pour les lunettes.
Mais vous voyez le signal qui est envoyé, Frédéric Valletoux, on court-circuite les médecins généralistes,
on court-circuite personne.
Et en plus on ne veut pas augmenter le tarif de leur consultation.
L'augmentation du tarif des consultations, elle est posée sur la table, elle est en discussion en ce moment. L'importance du médecin traitant, elle est essentielle. Notre système est bâti autour de ça. On ne peut faire monter en compétence des autres professionnels que si on assure et on reconnaît le rôle du médecin traitant. Mais parce que le rôle du médecin traitant, c'est la tour de contrôle. Le médecin traitant, qui garantit effectivement la qualité du parcours de soins. Après que, pour des lunettes, pour parce qu'on a une angine, on va chez le pharmacien, pour un vaccin, on va chez l'infirmière ou encore chez le pharmacien, etc. Qu'on libère, j'allais dire.
Si c'est aussi le cas pour le kiné, si c'est le cas pour le psy, en fait, qu'est-ce qu'il contrôle au bout du compte, le médecin traitant ?
C'est essentiel. Enfin, le médecin généraliste, aujourd'hui, est le seul soignant qui a une vue globale sur le patient. Qui vous connaît, parce qu'il est votre médecin traitant, qui vous a vu grandir, qui vous a connu dans vos maladies, si ça fait des années qu'il est à vos côtés, et qui sait exactement, qui garantit la bonne prise en charge et l'intervention de l'ensemble des soignants. C'est pas un pharmacien qui va avoir ce regard global, c'est pas le kiné, bien sûr, c'est pas sa compétence. On ne confond pas les rôles. On libère simplement du temps médical.
S'ils sont aussi importants, justement, ces médecins généralistes, pourquoi ne pas accéder à leur demande, c'est-à-dire une consultation à 30 euros ?
C'est en cours de discussion, et moi je souhaite sincèrement que ces discussions organisées par l'assurance maladie sur la convention médicale, c'est les règles financières qui vont régir les liens entre l'assurance maladie et les médecins pendant 5 ans, et bien que ces discussions permettent d'avancer. Et ces
elles
discussions
sont au point mort, là, ces négociations.
Elles ne sont pas au point mort. Il y a eu des discussions qui étaient qualifiées il y a encore quelques jours par les uns et par les autres, d'avancées constructives, de possibilités, effectivement, de voir un terme à ces discussions et d'aboutir. Donc, aujourd'hui, moi je suis plutôt positif. J'appelle à l'état d'esprit et de responsabilité de chacun. Aujourd'hui, les Français nous regardent. Ils ont besoin d'un système de santé qui, effectivement, puisse faire face aux difficultés et permettent en même temps d'améliorer la prise en charge. Pour ça, effectivement, il y a des éléments qui ont été posés, à la fois par les syndicats, mais aussi par l'assurance maladie, pour que finalement la hausse de la consultation, puisqu'il s'agit de ça, en secteur 1, passage à 30 euros, soit accompagnée d'engagements réciproques qui permettent de dire, sur les patients, les Français qui n'ont pas de médecin traitant, et notamment ceux qui sont touchés par des affections longue durée, comment on fait, et donc des propositions ont été faites pour que les médecins puissent mieux prendre en charge ces patients, comment on organise, vous parliez tout à l'heure, la permanence des soins, le soir, le week-end, comment on organise mieux la permanence des soins.
Donc vous leur demandez des contreparties.
C'est pas c'est des engagements réciproques. À partir du moment où la nation met plus d'argent, eh ben, elle attend aussi d'autres choses. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, effectivement, il faut indiquer qu'il n'est pas question de chambouler le système de santé. Il n'est pas question de le renverser et de le mettre cul par-dessus tête. Le médecin traitant reste au cœur de, au cœur de la prise en charge des Français. Parce que je
le
redis,
vous allez les appeler pour qu'ils reviennent tous autour de la table, ne serait-ce que
Je les ai pas
les libéraux, mais aussi les cliniques privées.
Ils se posent des questions parce que, comme chaque fois qu'il y a des annonces, l'explication peut-être n'a pas été faite. Et le Premier ministre a eu raison de poser des chantiers qui sont des chantiers ambitieux parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus attendre, effectivement, et on doit trouver des solutions, immédiates.
Non, mais vous allez les appeler, monsieur le ministre ?
Ah ben, je les ai eus ce week-end, je les ai eus avant ce week-end, je les aurai cette
semaine. Donc le dialogue est complètement rompu.
Non, il n'est pas rompu, il est permanent. Je vois les cliniques encore aujourd'hui et demain. J'ai vu les spécialistes libéraux avant les annonces de Gabriel Attal sans connaître ce qu'elle a dit, parce que, sur un autre sujet qui était le sujet de la campagne tarifaire. C'est en permanence. Et mon rôle, c'est d'être en permanence à discuter avec les uns les autres.
Et c'est
en plus mon état d'esprit.
Il y a une autre discussion d'ailleurs, c'est celle que vous devez avoir avec les professionnels du transport médical. Les taxis conventionnés manifestaient il y a quelques jours parce qu'ils considèrent que la prise en charge n'est pas suffisante, l'inflation étant passée par là. Or, ça fait précisément partie, le transport médical, des pistes d'économie voulues par Bercy. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Ils doivent là aussi faire des propositions pour que tout le monde participe effectivement à c'est pas tellement des pistes d'économie, c'est la maîtrise des dépenses. Deux chiffres, les transports sanitaires, c'est 6 milliards d'euros, ce qui est pas une mince affaire, qui a augmenté l'année dernière de 7%. Donc il faut aussi qu'on arrive avec les professionnels concernés de trouver des solutions pour contenir. Je parle même pas d'économie, je parle d'arriver déjà à contenir l'envolée, l'emballement
encore,
de certaines dépenses.
L'inflation est passée par là.
Ça veut dire quoi, deux patients dans un taxi par exemple?
Pourquoi pas, ça serait possible, en tout cas il ne faut pas s'interdire ça. Alors évidemment vous n'allez pas me dire quel type de patient, des patients légers, c'est programmé, mais si vous voulez en tout cas il faut qu'on travaille, c'est là aussi l'esprit de responsabilité qui doit nous guider, il faut qu'on travaille, il y a des pistes de propositions, on ne peut pas laisser voir un tel emballement de ce type de dépenses.
Mais pour que ce soit clair et pour les auditeurs qui nous écoutent et les téléspectateurs, il est hors de question de ne plus prendre en charge le transport pour certains malades.
Ah mais pas du tout, mais attendez, on passe pas de 6 milliards à 0 milliard. De quoi ?
Faire le tri parmi les patients, c'est la question.
C'est pas un tri parmi les patients, c'est de trouver des solutions et puis c'est d'appeler aussi tout le monde effectivement à être raisonnable. Pour certaines consultations, on peut prendre les transports publics lorsqu'on habite en métropole, pas très loin de l'établissement, et qu'on est en forme, parce que tout le monde n'arrive pas en civière à l'hôpital ou à sa consultation. Et il est évident que ceux qui ont besoin de transports sanitaires adaptés, parce qu'ils sont dans des cas lourds, évidemment qu'on ne va pas toucher à ces cas-là. Mais voyez bien que dans le dispositif général, je le redis, 6 milliards d'euros, on doit trouver des moyens de contenir l'emballement de ces dépenses.
Un sujet, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sur l'aide médicale d'État, qui avait été évoqué, sujet important dans le cadre de la loi immigration notamment, elle avait été évoquée. La réforme est pour quand ?
La réforme est d'ici l'été, puisque c'est le calendrier qui avait été annoncé par le Premier ministre. Et quand je dis réforme, c'est l'ajustement du fonctionnement de l'AME, en tirant les leçons du rapport qui avait été fait par messieurs Stefanini et Vin, et qui, effectivement, démontrait qu'il y avait des ajustements opérés
pour rendre
là aussi plus efficace. Il disait qu'il n'y avait pas d'abus, et c'est pour ça que la décision a été prise par le Président de la République et par le Premier ministre de ne pas toucher à l'essentiel, au cœur de l'AME.
Donc vous allez toucher à quoi ?
Eh ben, on touche par exemple aux conditions d'accès, c'est-à-dire quelqu'un bénéficiaire de l'AME qui vit avec un conjoint qui a des revenus suffisants pour lui permettre, doit pouvoir sortir de l'AME parce que on prend en compte les revenus du couple ou de la famille.
Hein.
Non, c'est pas le cas.
On fait en fonction des revenus ?
Non, des revenus de la personne uniquement, mais pas des revenus du conjoint. Donc, vous voyez, c'est des choses, on est dans le micro-détail, mais soyons précis.
Donc, ce sont des ajustements,
c'est pour ça que je parle d'ajustements. Mais par contre, philosophiquement, il n'est pas question de toucher à l'AME, qui a été, effectivement, et ça a été très bien démontré, qui n'est pas du tout ce que certains nous disent de gabegie, d'un dispositif inutile. Il est utile en termes de santé publique.
Frédéric Valletoux, ministre délégué en charge de la santé. On vous retrouve juste après le fil info. Il est 8h51. Diane Ferchit.
Dans l'enquête sur la mort de Samseddine en Essonne, 5 jeunes sont mis en examen, dont 4 pour assassinat. Ils sont en détention à l'origine des coups mortels. un différend semble-t-il au sujet de la sœur de deux d'entre eux. Le Finistère en vigilance orange, vagues, submersion et vent face à l'arrivée de la tempête Pierrick, des rafales jusqu'à 130 km par heure attendues. Demain, les départements des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et de la Manche seront eux aussi en vigilance orange. Il y aura une diminution de 54% des représentations culturelles pour la saison prochaine. C'est ce que révèle une étude de l'Association des professionnels de l'administration du spectacle. Alors que le gouvernement cherche à faire des économies, le budget du ministère de la Culture est amputé de 200 millions d'euros. 27 personnes jugées à partir d'aujourd'hui au Panama dans l'affaire des Panama Papers, affaire d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, révélée il y a 8 ans, une enquête autour d'un cabinet d'avocats Mossack Fonseca mené par le Consortium international des journalistes d'investigation.
France Info.
Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Brakia.
Et le ministre délégué en charge de la Santé, Frédéric Valletoux. Après-demain, au Conseil des ministres, arrive la loi sur la fin de vie, un volet aide à mourir, un volet soins palliatifs. Sur ce point, seuls 30% des mineurs et 50% des adultes qui ont besoin de soins palliatifs y ont accès. C'est ce que disait encore tout récemment Catherine Vautrin, votre ministre de tutelle. Comment est-ce que vous pourriez réaliser en quelques mois ce qui n'a pas été en 8 ans depuis l'adoption de la dernière loi sur le sujet?
Alors c'est une accélération qui va prendre effectivement plusieurs années, mais c'est une accélération du déploiement des services de soins palliatifs ou de l'offre de soins palliatifs dans les territoires. D'abord dans les 20 départements où aujourd'hui il n'y a aucun lit de soins palliatifs qui vont être prioritaires, mais c'est aussi un déploiement dans les services hospitaliers, 300 lits qui progressivement vont être créés dans les services de soins palliatifs en plus des 1500 qui existent aujourd'hui. Et puis aussi c'est un déploiement des soins palliatifs à domicile. On en parle souvent peu, on parle beaucoup des unités hospitalières, mais il y a beaucoup de soins palliatifs à domicile. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 50 000 places. On va vers 20 000 places en plus à terme, c'est-à-dire d'ici 3-4 ans, de manière à ajuster et de monter en charge, effectivement.
Mais vous parlez sur plusieurs années. Or, si la loi passe...
Oui, on parle sur plusieurs années. Vous savez que les soins palliatifs...
Sur la fin de vie, si la,
c'est
si
pas
la
des
loi...
Lits qu'on ouvre, pardon, mais c'est pas des lits qu'on ouvre comme ça. Il y a un taux, d'ailleurs, de personnel dans les services de soins palliatifs qui est assez élevé. Il faut former des gens et il faut aussi que les soins palliatifs prennent une place nouvelle dans la formation des médecins. Aujourd'hui, l'enseignement soins palliatifs n'est pas majeur, on va dire ça comme ça.
Mais le sens de la question, c'est que si on vous écoute bien, au moment où l'aide à mourir entrera en vigueur, il y aura encore des départements qui ne seront pas équipés en unités de soins palliatifs.
Alors, la loi, elle ne va pas arriver... Dès cette année, il y a une discussion au Parlement qui va être longue, mais effectivement, la montée en charge des soins palliatifs va être concomitante, parallèle effectivement, la mise en place de ce dispositif d'accompagnement à la fin de vie. Et je le redis, les soins palliatifs, c'est plus de médecins formés, c'est plus de personnel formé, c'est des services hospitaliers, c'est aussi du déploiement d'offres à domicile. Et donc, c'est tout un dispositif important, mais je crois que le signal, ce qui est important, plus d'un milliard d'euros donnés pour, effectivement, ces 10 prochaines années pour permettre de déployer ces soins palliatifs, c'est-à-dire que l'État s'engage dans un effort qui va être certes long, progressif, mais qui est
Résolu. Dans quel sens ça a de vous engager sur 10 ans, alors qu'au mieux pour vous, dans 3 ans, vous n'êtes plus là?
Non, mais heureusement, quand Jacques Chirac a lancé le plan cancer, qui continue aujourd'hui en 2004, et qui a permis à la France d'être un acteur majeur de la lutte contre le cancer, heureusement qu'il ne s'est pas dit « il me reste à l'époque 3 ans et on va faire un plan cancer pour 3 ans ». Non, il a engagé l'État dans un chemin qui, maintenant, depuis 20 ans, fait que la France a sérieusement et largement, c'est pas le sujet du jour, mais je veux dire, monté en niveau sa prise en charge
donc
des
cancers.
Vous comptez
sur vos successeurs.
Donc, vous savez, sur ces sujets-là, heureusement, il y a une espèce de permanence de l'effort de l'État, et quand on s'engage sur des politiques de santé publique qui sont toujours des politiques de long terme, on le fait toujours en regardant loin à l'horizon.
Sur un plan personnel, est-ce que vous êtes totalement à l'aise avec le texte qui va être présenté après?
Je suis totalement à l'aise sur le texte. La seule chose que moi j'avais émise en amont du texte, c'était effectivement qu'il y ait un effort qui soit fait sur les soins palliatifs et que les soins palliatifs ne viennent pas un angle mort de la prise en charge des personnes, de la prise en charge des personnes qui arrivent en fin de vie et qui sont confrontées notamment à la douleur. Très clairement, la réponse, on vient d'en parler, elle est là. Le président de la République a souhaité un programme massif de développement des soins palliatifs, et c'est une excellente chose.
Ouais, parce que je vous posais la question, parce qu'en juin 2023, vous aviez co-signé dans Le Monde un texte sur la
tribune qui disait ça.
Voilà, mais qui disait, voilà, les personnes les plus fragiles et les plus isolées sont de fait les plus concernées par les demandes de mort anticipées. Ça, ce texte prévoit de tenir compte de ça.
La réponse notamment des soins palliatifs, c'est qu'effectivement, il n'y ait plus un recoin du territoire qui ne puisse pas permettre une prise prise en charge en soins palliatifs, donc c'est majeur.
Frédéric Valtou, les JO cet été vont être un enjeu sécuritaire, un enjeu logistique aussi, mais aussi un défi sanitaire. En temps normal, la situation, on le sait, elle est tendue à l'hôpital. Est-ce que déjà pour les JO, comme pour pendant le Covid, vous avez demandé à tous les soignants de ne pas prendre de vacances?
Alors, on a demandé aux soignants, on a donné la possibilité à ceux qui le souhaitaient, là aussi on n'est pas dans l'obligation, de pouvoir rester dans leur service, de fractionner leurs vacances. Et d'ailleurs, il y a une prime de fractionnement qui a été mise en place, de vacances qui a été mise en place pour les hospitaliers concernés cet été. Mais un mot quand même sur le dispositif sanitaire. D'abord, il va concerner les hôpitaux de la PHP et 12 hôpitaux, périphériques, qui sont franciliens et hors APHP. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on s'attend pas à un pic de fréquentation dans les services hospitaliers qui soit énorme. Je veux rappeler que Paris est déjà la première destination touristique au monde, quasiment dans les grandes villes, une des premières destinations touristiques au monde habituellement, et qu'on a l'habitude à Paris, en Ile-de-France, que l'été ne soit pas une baisse de fréquentation dans les hôpitaux très forte.
Sauf que là, on attend 7 millions de visiteurs, et si on ajoute une possible canicule cet été, on recevoir tout le monde.
Ne vous inquiétez pas. D'abord, la chance qu'on a, c'est que l'Ile-de-France est aussi une des régions qui est le mieux dotée en tissu hospitalier et en tissu médical et en service médical. Donc de ce point de vue-là, on part pas là non plus d'une feuille blanche. Habituellement, je vais vous donner un chiffre, habituellement, on considère que les services hospitaliers l'été tournent à entre 80 et 90% de leur activité habituelle. Là, ils vont permettre d'absorber 100% de ce qu'est l'activité habituelle. Donc vous voyez, entre 90% et 100%, c'est quelques points d'activité en plus. C'est comme si on était effectivement dans un mois de novembre ou décembre classique, entre le 15 juillet et le 15 août. Donc tous les plannings aujourd'hui ont été faits et permettent de dire qu'à ce jour, le dispositif sanitaire est prêt, les hôpitaux sont prêts, la médecine de ville, on a travaillé avec eux, les pharmaciens ont travaillé avec eux pour veiller à ce que effectivement tout le monde ne parte pas en vacances.
Le déplacement des véhicules d'urgence aussi, tout ça.
Oui, c'est en train d'être mis en place avec la préfecture de police de Paris. Je co-présiderai avec Amélie Oudéa-Castéra avant la fin du mois d'avril. Effectivement, un comité qui ira sur l'aspect sanitaire de ces JO. Mais en tous les cas, je peux vous dire aujourd'hui que le dispositif est prêt.
Merci Frédéric Valtou.
Merci à vous.
Ministre délégué en charge de la santé et de la prévention. Vous étiez l'invité du 8:30 France Info. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, les informer dans 5 minutes.
Eh bien, on va revenir sur les multiples annonces santé du gouvernement pour rendre l'accès aux soins plus accessible justement aux Français. Y a-t-il une vraie efficacité derrière ou alors est-ce juste de l'affichage? On en parle dans un instant avec Guillaume Naret et les informer. À tout de suite sur France Info.